Chapitre 4. Le voyage, ce qui se passait à Versailles, le retour. Ainsi poussant, ainsi poussé, mais suivant toujours l'aide de camp de M. de Beauvau, Gilbert, Billot et Pitou arrivèrent enfin près du carrosse dans lequel le roi, accompagné de messieurs d'Estaing et de Villequier, s'avançait lentement au milieu d'une foule croissante. Spectacle curieux, inouï, inconnu, car il se produisait pour la première fois. Tous ces gardes nationaux de la campagne, soldats improvisés, accouraient avec des cris de joie sur le passage du roi, le saluant de leur bénédiction, essayant de se faire voir et, au lieu de s'en retourner chez eux, prenant rang dans le cortège et accompagnant la marche du roi. Pourquoi? Nul n'aurait pu le dire. Obéissait-on à l'instinct? On avait vu, on voulait revoir encore ce roi bien-aimé. Car il faut le dire, à cette époque, Louis XVI était un roi adoré, à qui les Français eussent élevé des autels sans ce profond mépris que M. de Voltaire avait inspiré aux Français pour les autels. Louis XVI n'en eut donc pas, mais uniquement parce que les esprits forts l'estimaient trop à cette époque pour lui infliger cette humiliation. Louis XVI aperçut Gilbert appuyé au bras de Billot. Derrière eux marchait Pitou, traînant toujours son grand sabre. « Ah, docteur, le beau temps et le beau peuple !»« Vous voyez, sire, » répliqua Gilbert. Et puis, se penchant vers le roi, « Qu'avais-je promis à votre majesté ?»« Oui, monsieur, oui, et vous avez tenu dignement votre parole. » Le roi releva la tête et, avec l'intention d'être entendu, « Nous marchons bien lentement, » dit-il, « mais il me semble que nous marchons encore trop vite pour tout ce qu'il y a aujourd'hui à voir. » « Sire, dit M. de Beauvau, vous faites cependant, au pas que votre majesté marche, une lieue en 3 heures. Il est difficile d'aller plus lentement. » En effet, les chevaux s'arrêtaient à chaque instant. Des échanges de harangues et de répliques avaient lieu. Les gardes nationales fraternisaient, on venait de trouver le mot, avec les gardes du corps de sa majesté. « Ah !» se disait Gilbert, qui contemplait en philosophe ce curieux spectacle. « Si l'on fraternise avec les gardes du corps, c'est donc qu'avant d'être des amis, ils étaient des ennemis. »« Dis donc, monsieur Gilbert, » dit Billot à demi-voix, « je l'ai joliment regardé, le roi, je l'ai joliment écouté, eh bien, mon avis est que le roi est un brave homme. » Et l'enthousiasme qui animait Billot fit qu'il accentua ces derniers mots de telle façon que le roi et l'état-major les entendirent. L'état-major se mit à rire, le roi sourit, et puis avec un mouvement de tête, « Voilà un éloge qui me plaît, » dit-il. Ces mots furent prononcés assez haut pour que Billot les entendît. « Oh, vous avez raison, sire, car je ne le donne pas à tout le monde, » répliqua Billot, entrant de plein pied dans la conversation avec son roi comme Michaud avec Henri IV. « Ce qui me flatte d'autant plus, » dit le roi fort embarrassé et ne sachant comment faire pour garder sa dignité de roi en parlant gracieusement comme bon patriote. Hélas, le pauvre prince, il n'était pas accoutumé encore à s'appeler le roi des Français, il croyait s'appeler encore le roi de France. Billot, transporté d'aise, ne se donna pas la peine de réfléchir si Louis, au point de vue philosophique, venait d'abdiquer le titre de roi pour prendre le titre d'homme. Billot, qui sentait combien ce langage se rapprochait de la bonhomie rustique, Billot s'applaudissait de comprendre un roi et d'en être compris. Aussi, à partir de ce moment, Billot ne cessa pas de s'enthousiasmer de plus en plus. Il buvait dans les traits du roi, selon l'expression virgilienne, un long amour de la royauté constitutionnelle, et il le communiquait à Pitou, lequel, trop plein de son propre amour et du superflu de l'amour de Billot, répandait le tout au dehors en cris puissants d'abord, puis glapissants, puis vagues. « Vive le roi! Vive le père du peuple !» Cette modification dans la voix de Pitou s'opérait au fur et à mesure qu'il s'enrouait. Pitou était complètement enroué lorsque le cortège arriva au point du jour où M. de Lafayette, à cheval sur le fameux coursier blanc, tenait en haleine les cohortes indisciplinées et frémissantes de la garde nationale, échelonnées depuis 5 heures du matin sur le terrain pour faire cortège au roi. Or, il était près de 2 heures. L'entrevue du roi et du nouveau chef de la France armée se passa d'une manière satisfaisante pour les assistants. Cependant, le roi commençait à se fatiguer, il ne parlait plus et se contentait de sourire. Le général en chef des milices parisiennes, de son côté, ne commandait plus, il gesticulait. Le roi eut la satisfaction de voir que l'on criait presque autant « Vive le roi » que « Vive Lafayette ». Malheureusement, ce plaisir d'amour-propre, c'était la dernière fois qu'il était destiné à le goûter. Du reste, Gilbert était toujours placé à la portière du roi, Billot auprès de Gilbert, Pitou près de Billot. Gilbert, fidèle à sa promesse, avait trouvé moyen, depuis qu'il avait quitté Versailles, d'expédier 4 courriers à la reine. Ces courriers n'avaient porté que de bonnes nouvelles, car partout sur son passage, le roi voyait les bonnets sauter en l'air. Seulement, à tous ces bonnets, brillait une cocarde aux couleurs de la nation, sorte de reproche adressé aux cocardes blanches que les gardes du roi et le roi lui-même portaient à leur chapeau. Au milieu de sa joie et de son enthousiasme, cette divergence de cocardes était la seule chose qui contraria Billot. Billot avait à son tricorne une énorme cocarde tricolore. Le roi avait une cocarde blanche à son chapeau. Le sujet et le roi n'avaient donc pas des goûts absolument semblables. Cette idée le préoccupait tellement qu'il s'en ouvrit à Gilbert au moment où celui ne causait plus avec sa majesté. « Monsieur Gilbert, lui demanda-t-il, pourquoi le roi n'a-t-il pas pris la cocarde nationale ?»«
Parce que, mon cher Billot, ou le roi ne sait pas qu'il y a une nouvelle cocarde, ou le roi estime que sa cocarde à lui doit être la cocarde de la nation. »
Non pas, puisque sa cocarde à lui est blanche et que la nôtre à nous est tricolore. »
Un moment, fit Gilbert, arrêtant Billot, à l'instant où celui-ci allait se lancer à corps perdu dans les phrases de journaux, la carte du roi est blanche comme le drapeau de la France est blanc. Ce n'est pas la faute du roi, ça. Cocarde et drapeau étaient blancs bien avant qu'il ne vînt au monde. Au reste, mon cher Billot, le drapeau a fait ses preuves et aussi la cocarde blanche. Il y avait une cocarde blanche au chapeau du bailli de Suffrène lorsqu'il rétablit notre pavillon dans la presqu'île de l'Inde. Il y avait une cocarde blanche au chapeau d'Assas, et c'est à cela que les Allemands le reconnurent la nuit quand il se fit tuer plutôt que de se laisser surprendre ses soldats. Il y avait une cocarde blanche au chapeau du maréchal de Saxe lorsqu'il battit les Anglais à Fontenoy. Il y avait enfin une cocarde blanche au chapeau de monsieur de Condé lorsqu'il battit les impériaux à Rocroi, à Fribourg et à Lens. Voilà ce qu'a fait la cocarde blanche et d'autres choses encore, mon cher Billot. Tandis que la cocarde nationale, qui fera peut-être le tour du monde, comme l'a prédit Lafayette, n'a encore eu le temps de rien faire, attendu qu'elle existe depuis 3 jours. Je ne dis pas qu'elle restera oisive, comprenez-vous, mais enfin, n'ayant encore rien fait, elle donne au roi le droit d'attendre qu'elle fasse.
Comment? La cocarde nationale n'a rien fait encore, dit Billot. Est-ce qu'elle n'a pas pris la Bastille?
Tu fais, dit tristement Gilbert, vous avez raison, Billot.
Voilà pourquoi, reprit triomphalement le fermier, voilà pourquoi le roi devrait la prendre.
Gilbert donna un grand coup de coude dans les côtes de Billot, car il s'était aperçu que le roi écoutait.
Puis, tout bas, « Êtes-vous fou, Billot ? » dit-il. « Et contre qui donc a été prise la Bastille ? Contre la royauté, ce me semble. Et voilà que vous voulez faire porter au roi les trophées de votre triomphe et les insignes de sa défaite ? Insensé ! Le roi est plein de cœur, de bonté, de franchise, et voilà que vous voulez en faire un hypocrite. »
« Mais, dit Billot, plus humblement, mais cependant, sans être rendu tout à fait, ce n'est pas précisément contre le roi que la Bastille a été prise, c'est contre le despotisme. »
Gilbert haussa les épaules, mais avec cette délicatesse de l'homme supérieur qui ne veut pas mettre le pied sur son inférieur de peur de l'écraser.
« Non, continua Billot en s'animant, ce n'est pas contre notre bon roi que nous avons combattu, c'est contre ses satellites. »
Or, à cette époque, on disait en politique « satellite » au lieu de « soldat », comme on disait au théâtre « courtier » au lieu de « cheval ». « D'ailleurs, continua Billot avec une apparence de raison,
il les désapprouve puisqu'il se tient au milieu de nous, et s'il les désapprouve, il nous approuve. C'est pour notre bonheur et son bonheur que nous avons travaillé, nous autres, vainqueurs de la Bastille.
Hélas, hélas, murmura Gilbert, qui ne savait trop lui-même comment concilier ce qui se passait sur le visage du roi et ce qui se passait dans son cœur. Quant au roi, il commençait, au milieu du murmure confus de la marche, à apercevoir quelques mots de la discussion engagée à ses côtés. Gilbert, qui s'apercevait de l'attention que le roi prêtait à la discussion, faisait tous ses efforts pour conduire Billot sur un terrain moins glissant que celui sur lequel il s'était engagé. Tout à coup, on s'arrêta. On était arrivé au cours La Reine, à l'ancienne porte de la conférence, dans les Champs-Élysées. Là, une députation d'électeurs et d'échevins, présidée par le nouveau maire Bailly, se tenait rangée en bon ordre avec une garde de 300 hommes commandée par un colonel et 300 membres au moins de l'Assemblée nationale pris, comme on le pense bien, dans les rangs tiers. Deux des électeurs combinaient leurs forces et leur adresse réunies pour tenir en équilibre un plat de vermeil sur lequel reposaient deux énormes clés, les clés de la ville de Paris du temps de Henri IV. Ce spectacle imposant fit taire toutes les conversations particulières et chacun, soit dans les groupes, soit dans les rangs, s'occupa, selon les circonstances, d'entendre les discours qui allaient être échangés à cette occasion. Bailly, le digne savant, le brave astronome qu'on avait fait député malgré lui, maire malgré lui, orateur malgré lui, avait préparé un long discours d'honneur. Ce discours avait pour exorde, selon les plus strictes lois de la rhétorique, un éloge du roi depuis l'avènement au pouvoir de M. Turgot jusqu'à la prise de la Bastille. Peu s'en fallait même, tant l'éloquence a de privilèges qu'on attribua au roi l'initiative des événements que le peuple pressé avait tout au plus subi et subi, comme nous l'avons vu, à contre-cœur. Bailly était fort content de son discours lorsqu'un incident, c'est Bailly qui raconte lui-même cet incident dans ses mémoires, lorsqu'un incident lui fournit un nouvel exorde bien autrement pittoresque que celui qu'il avait préparé, le seul d'ailleurs qui soit resté dans la mémoire du peuple, toujours prêt à saisir les bonnes et surtout les belles phrases bâties sur un fait matériel. Tout en cheminant avec les échevins et les électeurs, Bailly s'alarmait de la pesanteur de ses clés qu'il allait présenter au roi. Croyez-vous donc, dit-il en riant, qu'après avoir porté ce monument au roi, je me fatiguerai à le rapporter à Paris? Qu'en ferez-vous donc? Demanda un électeur. Ce que j'en ferai, dit Bailly, je vous les donnerai ou bien je les jetterai dans quelque fossé au pied d'un arbre. Gardez-vous-en bien, s'écria l'électeur scandalisé. Ne savez-vous pas que ces clés sont les mêmes que la ville de Paris a offertes à Henri IV après le siège? Elles sont précieuses, c'est une antiquité estimable. Vous avez raison, repartit Bailly. Les clés offertes à Henri IV, conquérant de Paris, on les offre à Louis XVI qui... Eh bien, se dit le digne maire, voilà une assez belle antithèse à produire. Et aussitôt, prenant un crayon, il écrivit au-dessus de son discours préparé l'exorde que voici. Sire, j'apporte à votre majesté les clés de la bonne ville de Paris. Ce sont les mêmes qui ont été offertes à Henri IV. Il avait reconquis son peuple. Aujourd'hui, le peuple a reconquis son roi. La phrase était belle, elle était juste, elle s'incrusta dans l'esprit des Parisiens, et de tout le discours de Bailly, des œuvres même de Bailly, c'est tout ce qui survécut. Quant à Louis XVI, il approuva de la tête, mais tout en rougissant, car il sentait l'épigrammatique ironie déguisée sous le respect et les fleurs oratoires. Puis, tout bas, Marie-Antoinette, murmura Louis XVI, ne se laisserait pas prendre à cette fausse vénération de M. Bailly et répondrait tout autrement que je ne vais le faire au malencontreux astronome. Ce qui fut cause que Louis XVI, pour avoir trop bien entendu le commencement du discours de M. Bailly, n'en écouta point du tout la fin, non plus que celui de M. de Lavigne, président des électeurs, dont il n'écouta ni le commencement ni la fin.
Cependant, les discours terminés, le roi, craignant de ne point paraître assez réjoui de ce qu'on avait voulu lui dire d'agréable, répliqua d'un ton très noble et sans faire allusion à rien de ce qui s'était dit, que les hommages de la ville de Paris et des électeurs lui agréaient infiniment. Après quoi, il donna l'ordre du départ. Seulement, avant de se mettre en route, il congédia ses gardes du corps afin de répondre par une gracieuse confiance aux demi-politesses que venait de lui faire la municipalité par l'organe des électeurs et de M. Bailly. Seul, alors, au milieu de la masse énorme des gardes nationaux et des curieux, la voiture s'avança plus rapidement. Gilbert et son compagnon Billot continuaient de se tenir à la portière de droite. Au moment où la voiture traversait la place Louis XV, un coup de feu retentit de l'autre côté de la Seine, et une blanche fumée monta comme un voile d'encens dans le ciel bleu, où s'évanouit aussitôt. Comme si le bruit de ce coup de feu avait un écho en lui, Gilbert s'était senti frappé d'une violente secousse. Une seconde de respiration lui manqua, et il porta la main à sa poitrine, où il venait de ressentir une vive douleur. En même temps, un cri de détresse retentit autour de la voiture royale. Une femme était tombée, percée d'une balle reçue au-dessous de l'épaule droite. Un des boutons de l'habit de Gilbert, bouton d'acier noir large et taillé à facettes selon la mode du temps, venait d'être frappé de biais par cette même balle. Il avait fait cuirasse et l'avait renvoyé, de là la douleur et la secousse éprouvées par Gilbert. Une partie de son gilet noir et de son jabot avait été enlevée. Cette balle renvoyée par le bouton de Gilbert venait de tuer cette malheureuse femme que l'on s'empressa d'emporter mourante et ensanglantée. Le roi avait entendu le coup de feu, mais n'avait rien vu. Il se pencha en souriant vers Gilbert. « On brûle là-bas de la poudre en mon honneur, » dit-il. « Oui, sire, » répondit Gilbert. Seulement, il se garda bien de dire à sa majesté ce qu'il pensait de l'ovation qu'on lui faisait. Mais en lui-même et tout bas, il s'avoua que la reine avait eu quelque raison de craindre, puisque sans lui, qui fermait hermétiquement la portière, cette balle qui avait ricoché sur son bouton d'acier arrivait droit au roi. Maintenant, de quelle main partait ce coup si bien dirigé? On ne voulut pas le savoir alors, de sorte qu'on ne le saura jamais. Billot, pâle de ce qu'il venait de voir, les yeux attirés sans cesse par cette déchirure de l'habit, du gilet et du jabot de Gilbert, Billot força Pitou à redoubler ses cris de « Vive le père des Français !» L'événement était si grand au reste que l'épisode fut vite oublié. Enfin, Louis XVI arriva devant l'hôtel de ville, après avoir été salué au Pont-Neuf par une salve de canons qui, au moins, eux, n'étaient point chargés à balles. Sur la façade de l'hôtel de ville s'étalait une inscription en grosses lettres noires le jour, mais qui, la nuit venue, devait s'éclairer et briller en transparent. Cette inscription était due aux ingénieuses élucubrations de la municipalité. Voici ce qu'on lisait sur cette inscription. « À Louis XVI, père des Français et roi d'un peuple libre. » Autre antithèse bien autrement importante que celle du discours de Bailly et qui faisait pousser des cris d'admiration à tous les Parisiens assemblés sur la place. Cette inscription attira l'œil de Billot, mais comme Billot ne savait pas lire, il se fit lire l'inscription par Pitou. Billot se la fit redire une seconde fois, comme s'il n'avait pas entendu la première. Puis, quand Pitou eut répété la phrase sans y changer un seul mot, « Il y a cela !» s'écria-t-il. « Il y a cela !»« Sans doute, » dit Pitou. « La municipalité a fait écrire que le roi était roi d'un peuple libre. »« Oui, père Billot. » « Alors, s'écria Billot, si la nation est libre, elle a le droit d'offrir au roi sa cocarde. » Et d'un bond, s'élançant au devant de Louis XVI qui descendait de son carrosse en face des degrés de l'hôtel de ville, « Sire, dit-il, vous avez vu que sur le Pont-Neuf, le Henri IV de bronze a la cocarde nationale ?»« Eh bien, fit le roi, eh bien, sire, si Henri IV porte la cocarde tricolore, vous pouvez bien la porter, vous. » « Certes, dit Louis XVI embarrassé, si j'en avais une, « Eh bien, dit Billot, en haussant la voix et en élevant la main, au nom du peuple, je vous offre celle-ci en place de la vôtre. Acceptez-la. »
Bailly intervint. Le roi était pâle. Il commençait à sentir la progression. Il regarda Bailly comme pour l'interroger.
« Sire, dit celui-ci, c'est le signe distinctif de tout Français. »«
En ce cas, je l'accepte, dit le roi, prenant la cocarde de la main de Billot. » Et, mettant de côté la cocarde blanche, il fixa la cocarde tricolore à son chapeau. Un immense hurrah de triomphe retentit sur la place. Gilbert se retourna, profondément blessé. Il trouvait que le peuple empiétait trop vite et que le roi ne résistait point assez. « Vive le roi !» cria Billot, qui donna ainsi le signal d'une seconde salve d'applaudissements.
« Le roi est mort, murmura Gilbert, il n'y a plus de roi en France. »
Une voûte d'acier avait été formée par un millier d'épées étendues depuis l'endroit où le roi descendait de sa voiture jusqu'à la salle où il était attendu. Il passa sous cette voûte et disparut dans les profondeurs de l'hôtel de ville. « Ce n'est point un arc de triomphe, dit Gilbert, ce sont les fourches caudines. » Puis, avec un soupir, « Ah, que dira la reine ?» À l'intérieur de l'hôtel de ville, le roi reçut un accueil bien flatteur. On l'appela le restaurateur de la liberté. Invité à parler, car la soif des discours devenait de jour en jour plus intense, et le roi voulait savoir enfin le fond des pensées de chacun, le roi mit la main sur son cœur et dit simplement « Messieurs, vous pouvez toujours compter sur mon amour. » Tandis qu'il écoutait à l'hôtel de ville les communications du gouvernement, car à partir de ce jour, il y eut un véritable gouvernement constitué en France à côté du trône et de l'Assemblée nationale, le peuple au dehors se familiarisait avec les beaux chevaux du roi, la voiture dorée, les laquais et les cochers de Sa Majesté. Pitou, depuis l'entrée du roi à l'hôtel de ville, c'était, grâce à un louis donné par le père Billot, amusé à faire avec force rubans bleus, blancs et rouges une collection de cocardes nationales de toutes les grandeurs dont il décorait les oreilles des chevaux, les harnais et tout l'équipage, ce que voyant le public imitateur avait littéralement transformé la voiture de Sa Majesté en une boutique de cocardes. Le cocher et les valets de pied en étaient ornés à profusion. On en avait en outre glissé quelques douzaines de rechanges à l'intérieur. Cependant, il faut le dire, Monsieur de Lafayette, demeuré à cheval sur la place, avait essayé de repousser ces zélés propagateurs des couleurs nationales, mais il n'y avait pas réussi. Aussi, quand le roi sortit, « Oh, oh !» fit-il en voyant tout ce bariolage. Et puis, de la main, il adressa à Monsieur de Lafayette un signe qui voulait lui dire de s'approcher. Monsieur de Lafayette s'approcha respectueusement en abaissant son épée. « Monsieur de Lafayette, lui dit le roi, je vous cherchais pour vous dire que je vous confirme dans le commandement des gardes nationales. » Et il remonta en voiture au milieu d'une universelle acclamation. Quant à Gilbert, tranquille désormais sur le roi, il était resté dans la salle des séances avec les électeurs ébahis. Les observations n'étaient pas terminées encore. Cependant, entendant ces grands cris qui saluaient le départ du roi, il s'approcha de la fenêtre et jeta un dernier coup d'œil sur la place afin de surveiller la conduite de ces deux campagnards. Ils étaient toujours, ou du moins paraissaient, être les meilleurs amis du roi. Tout à coup, Gilbert vit, par le quai Pelletier, arriver au pas le plus rapide un cavalier couvert de poussière qui faisait ouvrir devant lui les rangs d'une foule encore respectueuse et docile. Le peuple, bon et complaisant ce jour-là, souriait donc en répétant « Un officier du roi ! Un officier du roi !» Et les cris de « Vive le roi !» saluèrent cet officier et les mains des femmes caressaient le cheval blanc d'écume. Cet officier pénétra jusqu'au carrosse et arriva à la portière au moment où le piqueur venait de la refermer derrière le roi. « Tiens, c'est vous, Charny ?» dit Louis XVI. Et plus bas, « Comment va-t-on là-bas » demanda-t-il. Puis, plus bas encore, « La reine ?»« Bien inquiète, sire, » répondit l'officier en passant sa tête presque en entier dans la voiture royale. « Retournez-vous à Versailles ?»« Oui. »
Eh bien, rassurez nos amis, tout s'est passé à merveille. » Charny salua, releva la tête et aperçut M. de Lafayette, lequel lui fit un signe amical. Charny alla à lui, et Lafayette lui tendit la main, ce qui fit qu'officiers du roi et cheval furent portés par la foule de l'endroit où ils étaient jusqu'au quai, où, grâce aux vigilantes consignes de la garde nationale, une haie se formait déjà sur le passage de Sa Majesté. Le roi ordonna que la voiture continuât d'aller au pas jusqu'à la place Louis XV. Là, on retrouva les gardes du corps qui attendaient, non sans impatience, le retour du roi. De sorte qu'à partir de ce moment, cette impatience gagnant tout le monde, les chevaux prirent une allure qui ne fit plus que s'accélérer au fur et à mesure que l'on avançait sur le chemin de Versailles. Gilbert, du balcon de la fenêtre, avait compris l'arrivée de ce cavalier, quoiqu'il ne le connût point. Il devinait à combien d'angoisse devait être livrée la reine, d'autant plus que, depuis 3 heures, aucun courrier n'avait pu être expédié à Versailles à travers cette foule sans exciter des soupçons ou trahir une faiblesse. Il ne soupçonnait cependant qu'une faible partie de ce qui s'était passé à Versailles. Nous allons y ramener le lecteur à qui nous ne voulons pas faire un trop long cours d'histoire. La reine avait reçu le dernier courrier du roi à 3 heures. Gilbert avait trouvé moyen de l'expédier au moment où le roi, passant sous la voûte d'acier, venait d'entrer sain et sauf à l'hôtel de ville. Près de la reine était la comtesse de Charny, qui venait seulement de quitter le lit où une grave indisposition l'avait retenue depuis la veille. Elle était fort pâle encore, elle avait à peine la force de lever ses yeux, dont la paupière pesante retombait toujours comme sous le poids d'une douleur ou d'une honte. La reine, en l'apercevant, lui sourit, mais de ce sourire d'habitude qui semble, pour leur familier, stéréotypé sur les lèvres des princes et des rois. Puis, comme elle était encore exaltée par la joie de voir Louis XVI en sûreté, « Encore une bonne nouvelle, dit-elle à ceux qui l'entouraient, puisse toute la journée se passer ainsi. » « Oh, madame, dit un courtisan, votre majesté s'alarme à tort. Les Parisiens savent trop bien quelle responsabilité pèse sur eux. Mais, madame, dit un autre courtisan, moins rassuré, votre majesté est-elle bien sûre de l'authenticité de ces nouvelles ?»« Oh oui, fit la reine, celui qui me les expédie m'a répondu du roi sur sa tête. D'ailleurs, je le crois, un ami. » « Oh, si c'est un ami, répondit le courtisan en s'inclinant, c'est autre chose. » Madame de Lamballe était à quelques pas. Elle s'approcha. « C'est, dit-elle, interrogeant Marie-Antoinette, le nouveau médecin du roi, n'est-ce pas ?»« Gilbert, oui, répondit étourdiment la reine, sans songer qu'elle frappait à côté d'elle un coup terrible. « Gilbert !» s'écria André, tressaillant, comme si une vipère l'eût mordu au cœur. « Gilbert, un ami de votre majesté ?» André se retourna. André, l'œil enflammé, les mains crispées par la colère et la honte, accusait fièrement la reine par son regard et son attitude. « Mais cependant, fit la reine en hésitant, « Oh, madame, madame !» murmura André du ton le plus amer du reproche. Un silence mortel s'établit autour de cet incident mystérieux. Au milieu de ce silence retentit un pas discret sur le parquet de la chambre voisine. « Monsieur de Charny, dit à demi-voix la reine, comme pour avertir André de se remettre. Charny avait entendu, Charny avait vu, seulement il ne comprenait pas. Il remarqua la pâleur d'André et l'embarras de Marie-Antoinette. Il ne lui appartenait pas de questionner la reine, mais André était sa femme, il avait le droit de l'interroger. Il s'approcha d'elle, et du ton de l'intérêt le plus amical, « Qu'y a-t-il, madame ? » demanda-t-il. André fit un effort sur elle-même. « Rien, monsieur le comte, » répondit-elle. Charny alors se retourna vers la reine, qui, malgré son habitude profonde des situations équivoques, avait 10 fois ébauché un sourire qu'elle n'avait pas achevé. « Vous paraissiez douter du dévouement de M. Gilbert, dit-il à André. Est-ce que vous auriez quelque motif de suspecter sa fidélité ?» André se tut. « Dites, madame, dites !» insista Charny. Puis, comme André restait toujours muette, « Oh, parlez, madame, dit-il, cette délicatesse ici serait condamnable. Songez qu'il s'agit du salut de nos maîtres.
Je ne sais, monsieur, à quel propos vous dites cela, répondit André.
Mais vous avez dit, et j'ai entendu, madame, j'en appelle d'ailleurs à la princesse, et Charny salua madame de Lamballe, vous avez dit en vous écriant, oh, cet homme, votre ami.
C'est vrai, vous avez dit cela, ma chère, répondit la princesse de Lamballe avec sa naïve bonhomie.
Alors, s'approchant d'André à son tour, si vous savez quelque chose, monsieur Charny a raison, dit-elle.
Par pitié, madame, par pitié, accentua André d'une voix assez basse pour n'être entendue que de la princesse. La princesse s'éloigna.
Eh, mon Dieu, c'était peu de chose, fit la reine, comprenant que tarder plus longtemps à intervenir c'eût été manquer de loyauté. Madame la comtesse exprimait une crainte, vague sans doute. Elle disait qu'il n'était pas bien difficile qu'un révolutionnaire d'Amérique, qu'un ami de monsieur de Lafayette fût notre ami.
« Oui, vague, » répéta machinalement André, « très vague. »
Une crainte pareille à celle que ces messieurs exprimaient avant que la comtesse n'exprimât la sienne, reprit Marie-Antoinette, et elle désigna des yeux les courtisans dont le doute avait donné lieu à ses propos. Mais il fallait plus que cela pour convaincre Charny. Trop d'embarras à son arrivée le mettait sur la voie d'un mystère. Il insista.
« N'importe, madame, dit-il, il me semble qu'il serait de votre devoir de ne pas exprimer seulement une crainte vague, mais au contraire de préciser. »«
Et quoi ? » dit assez rudement la reine. « Vous revenez encore à cela, monsieur ?»«
Madame, pardon, mais je vois bien que vous questionnez encore, madame la comtesse de Charny. »«
Excusez-moi, madame, dit Charny, c'est par intérêt pour votre amour-propre, n'est-ce pas ?»
Ah, monsieur de Charny, ajouta la reine avec une ironie dont le comte sentit tout le poids,
dites franchement la chose, vous êtes jaloux.
Jaloux? S'écria Charny rougissant, mais jaloux de quoi? Je le demande à votre majesté.
De votre femme, apparemment, continua la reine avec aigreur.
Madame, balbutia Charny, tout étourdi de la provocation,
c'est bien naturel, reprit sèchement Marie-Antoinette, et la comtesse en vaut assurément la peine.
Charny lança à la reine un coup d'œil dont la mission était de l'avertir qu'elle allait trop loin, mais c'était peine inutile, précaution superflue. Quand, chez cette lionne blessée, la douleur imprimait sa morsure brûlante, rien n'arrêtait plus la femme.
« Oui, je comprends que vous soyez jaloux, monsieur de Charny, jaloux et inquiet. C'était l'état habituel de toute âme qui aime et, par conséquent, qui veille. »«
Madame, » répéta Charny.
« Ainsi moi, » répondit la reine, « j'éprouve absolument le même sentiment que vous à l'heure qu'il est. J'ai à la fois jalousie et inquiétude. »
Elle appuya sur le mot « jalousie ».«
Le roi est à Paris et je ne vis plus. »
Mais, madame, dit Charny, qui ne comprenait plus rien à cet orage qui se chargeait de plus en plus d'éclairs et de foudre, vous venez de recevoir des nouvelles du roi, ces nouvelles étaient bonnes et, par conséquent, devaient vous rassurer.
Avez-vous été rassuré, vous, quand la comtesse et moi, nous vous avons renseigné tout à l'heure?
Charny se mordit les lèvres.
André commençait à relever la tête, surprise et épouvantée à la fois, surprise de ce qu'elle entendait, épouvantée de ce qu'elle croyait comprendre. Le silence qui s'était fait l'instant d'auparavant pour elle à la première question de Charny, l'assemblée le faisait maintenant pour la reine.
« En effet, poursuivit la reine avec une sorte de fureur, il est dans la destinée des gens qui aiment de ne songer qu'à l'objet de leur affection. Ce serait une joie pour les pauvres cœurs de sacrifier impitoyablement tout, oui, tout sentiment qui les agite. Oh, mon Dieu, je suis inquiète du roi. »
Madame se hasarda de dire un des assistants, d'autres courriers arriveront.
« Oh, pourquoi ne suis-je pas à Paris au lieu d'être ici? Pourquoi ne suis-je pas auprès du roi ?» dit Marie-Antoinette, qui avait vu Charny se troubler depuis qu'elle cherchait à lui donner cette jalousie qu'elle-même éprouvait si violemment.
Charny s'inclina.
« Si ce n'est que cela, madame, dit-il, j'y vais aller, et si,
Comme votre majesté le pense, il y a danger pour le roi si cette tête précieuse est exposée. Croyez bien, madame, que ce ne sera pas faute par moi d'avoir exposé la mienne. Je pars. » Il salua en effet et fit un pas pour sortir. « Monsieur, monsieur !» s'écria André en s'élançant devant de Charny. « Monsieur, ménagez-vous !» Il ne manquait plus à cette scène que l'explosion des craintes d'André. Aussi à peine André, emporté malgré elle hors de sa froideur ordinaire, eut-elle prononcé ces paroles imprudentes et témoigné cette sollicitude inusitée que la reine devint affreusement pâle. « Et madame, dit-elle à André, comment donc se fait-il que vous usurpiez ici le rôle de la reine ?»« Moi, madame, balbutia André, comprenant qu'elle venait pour la première fois de faire jaillir hors de ses lèvres le feu qui depuis si longtemps brûlait son âme. « Quoi ? Continua Marie-Antoinette, votre mari est au service du roi, il va trouver le roi. S'il s'expose, c'est pour le roi, et quand il s'agit du service du roi, vous recommandez à monsieur de Charny de se ménager ?» À ces foudroyantes paroles, André perdit connaissance, elle chancela et serait tombée sur le parquet si Charny, se précipitant vers elle, ne l'eût retenue dans ses bras. Un mouvement d'indignation dont Charny ne fut pas le maître acheva de désespérer Marie-Antoinette, qui croyait n'être qu'une rivale blessée et qui avait été une souveraine injuste. « La reine a raison, dit enfin Charny avec effort, et votre mouvement, madame la comtesse, a été mal calculé. Vous n'avez point de mari, madame, lorsqu'il s'agit des intérêts du roi, et ce serait à moi de vous ordonner le premier de ménager votre sensibilité si je m'apercevais que vous daignassiez éprouver quelque crainte pour moi. » Puis, se retournant vers Marie-Antoinette, « Je suis aux ordres de la reine, dit-il froidement. Et je pars. C'est moi qui vous rapporterai des nouvelles du roi, de bonnes nouvelles, madame, ou qui n'en rapporterai point. » Puis, ces paroles prononcées, il s'inclina jusqu'à terre et partit, sans que la reine, frappée à la fois de terreur et de colère, eût songé à le retenir. On entendit l'instant d'après retentir sur le pavé de la cour les fers d'un cheval qui partait au galop. La reine demeura immobile, mais en proie à une agitation intérieure d'autant plus terrible qu'elle faisait de plus grands efforts pour la cacher. Chacun comprenant ou ne comprenant pas la cause de cette agitation, respecta du moins, en se retirant, le repos de la souveraine. On la laissa seule. André sortit avec les autres de l'appartement, abandonnant Marie-Antoinette aux caresses de ses deux enfants qu'elle avait fait demander et qu'on venait d'introduire auprès d'elle. La nuit était venue, amenant son cortège de craintes et de visions sinistres, quand tout à coup, à l'extrémité du palais, retentirent des cris. La reine tressaillit et se leva. Une fenêtre était sous sa main, elle l'ouvrit. Presque au même instant, des serviteurs, transportés de joie, entrèrent chez sa majesté en s'écriant « Un courrier, madame, un courrier !» Et puis, trois minutes après, un hussard se précipitait dans les antichambres. C'était un lieutenant, dépêché par monsieur de Charny. Il arrivait à toute bride de Sèvres. « Et le roi ? » dit la reine. « Sa majesté sera ici dans un quart d'heure, » répliqua l'officier, qui pouvait à peine parler. « Sain et sauf ? » dit la reine. « Sain et sauf, et souriant, madame. Vous l'avez vu, n'est-ce pas ? Non, madame, mais monsieur de Charny me l'a dit en m'expédiant. » La reine tressaillit de nouveau à ce nom que le hasard venait d'accoler au nom du roi. « Merci, monsieur. Reposez-vous, » dit-elle au jeune homme. Le jeune homme salua et sortit. Elle, prenant ses deux enfants par la main, se dirigea vers le grand perron sur lequel déjà se groupaient tous les serviteurs et les courtisans. L'œil perçant de la reine aperçut au premier degré une jeune femme blanche accoudée sur la balustrade de pierre et plongeant un regard avide dans les ombres de la nuit. C'était André, que la présence de la reine ne réussit pas à distraire de sa préoccupation. Évidemment, elle était si empressée de venir se ranger aux côtés de la reine, elle n'avait point vu sa maîtresse ou dédaignait de la voir. Elle avait donc rancune de la vivacité de Marie-Antoinette, vivacité cruelle dont elle avait eu à souffrir dans la journée. Ou bien, emportée par un sentiment d'intérêt puissant, elle guettait pour son compte le retour de Charny, auquel elle avait témoigné tant d'appréhensions affectueuses. Double coup de poignard qui rouvrit chez la reine une plaie encore saignante. Elle ne prêta plus qu'une oreille distraite aux compliments et à la joie de ses autres amis et des courtisans. Elle se sentit même un instant distraite de cette violente douleur qui l'avait accablée pendant toute la soirée. Une trêve se faisait en elle à l'inquiétude qu'excitait dans son cœur le voyage du roi menacé par tant d'ennemis. Mais avec une âme forte, la reine chassa bientôt tout ce qui n'était pas la légitime affection de son cœur. Elle mit aux pieds de Dieu sa jalousie, elle immola ses colères et ses joies secrètes à la sainteté du serment conjugal. Ce fut Dieu, sans doute, qui lui envoyait comme repos et comme soutien cette salutaire faculté d'aimer le roi, son époux, par-dessus toutes choses. En ce moment, du moins, elle le sentit ou crut le ressentir, l'orgueil de la royauté élevait la reine au-dessus de toutes les passions terrestres, l'amour du roi était son égoïsme. Elle avait donc absolument refoulé au dehors et les petites vengeances de femme et les coquetteries frivoles de l'amante quand les flambeaux de l'escorte apparurent au fond de l'avenue. Ces feux grossissaient à chaque seconde par la rapidité de la course. On entendait hennir et souffler les chevaux. Le sol tremblait dans le silence de la nuit sous le poids cadencé des escadrons en course. Les grilles s'ouvrirent, les postes se précipitèrent au-devant du roi avec mille cris d'enthousiasme. Le carrosse retentit avec éclat sur le pavé de la grande cour. Éblouie, ravie, fascinée, ivre de tout ce qu'elle avait éprouvé, de tout ce qu'elle ressentait de nouveau, la reine ne se précipita pas par les degrés au-devant du roi. Louis XVI, descendu de voiture, montait l'escalier le plus rapidement possible au milieu de ses officiers, tout remué par les événements et leur triomphe, tandis qu'en bas, les gardes, mêlés sans façon aux palefreniers et aux écuyers, arrachaient des carrosses et des harnais toutes les cocardes que l'enthousiasme des Parisiens y avait plantées. Le roi et la reine se rencontrèrent sur un palier de marbre. La reine, avec un cri de joie et d'amour, étreignit son époux à plusieurs reprises. Elle sanglotait, comme si le retrouvant, elle avait cru ne jamais le revoir. Tout entière à ce mouvement d'un cœur trop plein, elle ne vit pas le serrement de mains silencieux que Charny et André venaient d'échanger dans l'ombre. Ce n'était rien qu'un serrement de main, mais André était la première au bas des marches. C'est elle que Charny avait vue et touchée la première. La reine, après avoir présenté ses enfants au roi, les fit embrasser à Louis XVI, et alors le dauphin, voyant au chapeau de son père la nouvelle cocarde sur laquelle les flambeaux projetaient une sanglante lumière, s'écria dans son étonnement enfantin, « Tiens, papa, qu'avez-vous donc à votre cocarde du sang ?» C'était le rouge national. La reine, avec un cri, regarda à son tour. Le roi baissait la tête pour embrasser sa fille, en réalité, pour cacher sa honte. Marie-Antoinette arracha cette cocarde avec un profond dégoût, sans voir la noble furieuse qu'elle blessait au cœur cette nation qui saurait se venger un jour. « Jetez cela, monsieur, dit-elle, jetez cela !» Et elle lança par les degrés cette cocarde sur laquelle passèrent les pieds de toute l'escorte qui conduisait le roi dans ses appartements. Cette étrange transition avait éteint chez la reine tout l'enthousiasme conjugal. Elle chercha des yeux, mais sans paraître le chercher, monsieur de Charny, qui se tenait à son rang comme un soldat. « Je vous remercie, monsieur, lui dit-elle, lorsque leurs regards se furent rencontrés après plusieurs secondes d'hésitation de la part du comte. Je vous remercie, vous avez bien tenu votre promesse. »« À qui parlez-vous ? Demanda le roi. « À monsieur de Charny, dit-elle bravement. « Oui, pauvre Charny, il a eu bien du mal à venir jusqu'à moi. Et Gilbert, je ne le vois pas, ajouta-t-il. » La reine, attentive depuis la leçon du soir, « Venez souper, dit-elle, sire, en changeant la conversation. Monsieur de Charny, poursuivit-elle, cherchez madame la comtesse de Charny, qu'elle vienne avec vous, nous souperons en famille. » Là, elle fut reine, mais elle soupira en songeant que Charny, de triste qu'il était, redevint joyeux.